Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Ding dong.
Ding dong.
La bande passante.
La bande passante. Nicolas Benita, Alain Pilot.
Ancienne élève de l'école normale supérieure de Lyon, elle éprouve un désir de métamorphose, un premier album, et la voilà déjà reine en son royaume. Voici celle qui a fait de nombreuses unes, et cette semaine, celle des Inoccupables, qualifiée de nouveau phénomène pop française. Bonsoir, Christine Anne de Queens.
Bonsoir.
L'hebdo français dit que vous queerisez la chanson française. Comment traduiriez-vous le verbe queeriser?
Peut-être bizarrifié, alors c'est un peu un néologisme, mais je pense que c'est ça, peut-être un peu dévier une pop culture que j'aime beaucoup, mais que j'aime bien rendre un petit peu malade ou étrange.
Nous allons avec vous faire la lumière sur ce premier disque intitulé Chaleur humaine, en version album, mais en session également, ce dont nous vous remercions. Et puis nous tirons un bilan des 30 ans des Francofolies de La Rochelle, où vous produisiez hier, Christine, compte rendu signé de notre envoyé spécial Bastien Brun, avec notamment le marchand de vent Dick Angarn. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique qui détonne à tous les étages. Une maman professeure de français et de latin, un papa prof d'anglais, spécialiste des études de genre, Héloïse Laetitier de son vrai nom, est une musicienne anti-nostalgique, originaire de Nantes. 2011 est l'année de son premier mini-album ou maxi, baptisé Miséricorde, suivi d'un deuxième en 2012 appelé Maccabée. 2012, elle remporte le prix Découverte du Printemps de Bourges et le prix Première Franco lors des Francofolies de La Rochelle, sur lesquels nous reviendrons en seconde partie. Son premier disque est sorti le 2 juin. La voici grimée, telle du calcaire, mais ne jouant pas n'importe quel air. C'est une féline qui rime avec Christine and the Queens Saint-Claude en session sur Our Station. Ça arrive.
Voilà qui laisse deviner que tout se décide, décide, tout se décide, décide. Maquillée comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié à mes solitudes immenses. Ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Comme certitude, collier à trois fils, 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 lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station.
Kiss my.
Saint-Claude, Christine and the Queens en direct, rect. Alors, des odeurs tenaces d'une ville, on passe à celle certainement plus agréable de votre chambre, où face à votre lit, il y avait le poster de ce chanteur assez queer, cloué au mur.
No, sir, everything's under control, sir!
Christine, où is it?
J'allais répondre Christine. Où is it de Michael Jackson, oui. Je l'ai reprise cette chanson, j'en ai fait une petite reprise d'ailleurs dans ma chambre, je l'ai travaillée dans ma chambre avec mon ordinateur. Mais
pourquoi vous l'avez reprise, celle-ci?
Bah, j'ai toujours profondément aimé Michael Jackson depuis que je suis toute petite, mais cette chanson-là, je me sentais peut-être capable de la reprendre parce que je pensais y apporter une mélancolie supplémentaire. C'est une chanson assez triste, mais Michael en a fait comme d'hab une chanson assez rythmée.
Il découvre qu'il est trompé, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est une chanson sur la trahison amoureuse. C'est assez opératique comme chanson. C'est assez intéressant à reprendre. Mais du coup, je l'ai travaillé dans quelque chose encore plus minimaliste et languide. Voilà. Je reprends des chansons où je sens que je peux me projeter aussi modestement, parce que sinon, il y a des chansons de lui que j'adore, mais qui sont indépassables que je me verrais pas reprendre.
Comme par exemple?
Pour moi, Wanna Be Starting Something is une chanson formidable. Je suis très fatiguée, alors je parle en franglais, je m'appelle moi-même, enfin tout
comme,
va bien.
Comme dans l'album. Comme...
C'est ça, ça commence voilà, à déteindre. C'est un style de vie qui commence à être...
C'est pas mal, vous êtes vraiment en adéquation avec votre disque.
C'est ça.
Vous le découvrez pour la première fois en 3D, Michael Jackson?
Ouais. Je le découvre à 3 ans, quand j'avais 3 ans, au parc Disneyland Paris. Il projetait à l'époque un film en 3D qui s'appelait Captain EO. On a entendu un petit extrait. Ouais. Et je me le suis littéralement pris en pleine figure, du coup. Enfin, je l'ai découvert aussi en tant que danseur, en même temps qu'en tant que chanteur. Je pense que son corps m'a autant marqué que sa musique, très tôt.
Alors, je parlais d'un chanteur qui était en poster en face de votre lit. C'était pas Michael Jackson, mais celui-ci, c'est sûr. Cold Song de Purcell par Klaus Nomi. De quoi vous mettre les poils au garde à vous. Klaus Nomi, une des premières célébrités disparues du sida en 1983. Qu'est-ce qui vous touchait chez cet artiste, Christine and the Queen? Son apparence de clown triste, son timbre, ou parce qu'il était le plus proche pour incarner le laid et le joli à la fois, parce qu'il était pour l'amour et l'amour seulement, comme vous le chantez dans Ugly Pretty?
Pour toutes ces raisons-là, oui, c'est un personnage qui me touche énormément. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que de chanteur d'opéra, il a fini par avoir une vie de personnage d'opéra. Et pour moi, il a une mort d'opéra. Il meurt seul, abandonné par tous. Donc ça fait un peu...
Avec quelqu'un qui se jette quand même sur son cercueil avec une grande cape noire.
Ah bon, c'est vrai ça?
Vraiment.
Ah, je savais pas. Moi, j'ai juste vu un documentaire qui m'avait beaucoup marqué sur sa vie, où tous les gens qui l'avaient un peu idolâtré dans les années 80, quand il était un peu le toast de la scène underground, avouaient ne pas être venus le voir sur son lit d'hôpital. Donc j'en ai vu un peu une figure de roi abandonné et scellé, comme dans la chanson qu'on entend là de Purcell, quoi.
Quand j'étais petit, les gens me disaient toujours que j'avais l'air étrange et ça me rendait triste, déclarera-t-il un jour à la télévision française. Puis je suis monté sur scène et les gens m'aimaient pour ça, mais dès que je quitte les plans, j'ai l'impression qu'il faut que je me cache parce qu'on va se moquer de moi. C'est un peu vous, ça, par moment, à qui l'on disait petite à l'école que vous aviez l'air saoul.
Oui, c'est vrai. Je connaissais pas cette citation. Et c'est une citation à la fois tragique et très heureuse aussi, parce que moi c'est vrai que je ressens toujours le moment de quitter la scène comme un moment de déchirement, et je dis pas ça pour être dans la romance, c'est que profondément pour moi la scène est un espace où je me sens vraiment exister plus que dans la vie quotidienne, où je me sens un peu rabougrie et ou déplacée et ou pas à ma place. Donc je peux très bien comprendre ça. Après je pense que j'étais moins extraterrestre que Klosnomy, mais la scène permet de me réconcilier avec moi-même, et d'ailleurs on me dit souvent que j'ai l'air plus petite ensuite dans la vraie vie, et je pense que je dois gagner des centimètres, je dois me sentir plus à l'aise peut-être.
C'est joli. On parlait de tromperie tout à l'heure avec Michael Jackson, ici deux amants, on suppose, qui ne passent pas une très bonne nuit.
Moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas, nuit 50, j'ai forcé le sang et la voix. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. Open, so cut it open, cut it open so you could see through it. And now I'm Lisa like, now I'm Lisa like, now I'm Lisa like for the rain to come through. Je crois.
Un extrait de Nuit 17 à 52, Christine and the Queen sur RFI. Dans votre discothèque personnelle, Christine, je pense que l'on peut trouver ce genre de chanteuse. Vous me dites ?
Laurie Anderson.
Oh, Superman, morceau minimaliste et hypnotique qui a marqué toute une génération, à commencer par moi, dédié au compositeur Jules Massenet, musicienne, violoniste, polyinstrumentiste et plasticienne. À travers son œuvre, Laurie Anderson met en lumière la relation entre l'homme et la technologie, le progrès, la société américaine. Vos débuts théâtraux vont avoir une similitude avec certaines de ses performances ?
Oh là, je pense pas être arrivée au niveau de Laurie Anderson, qui pour moi était carrément aussi une philosophe. Je trouve que ses chansons sont parfois cruellement visionnaires, même aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé mélanger les disciplines et j'ai toujours aimé réfléchir à des arts un peu transversaux. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup moi la mise en scène et le théâtre en tant que metteur en scène possible. Et je trouve que elle réussissait très bien à faire des objets d'art total. D'ailleurs, il y a un spectacle d'elle qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vu sur YouTube du coup, parce que je suis la génération YouTube et que j'étais pas là pour le voir, qui s'appelle Home of the Brave, qui est vraiment un spectacle total, quoi. C'est quelqu'un de très. Je suis très impressionnée par Laurie Anderson, ouais.
Et avec elle, quel serait votre rapport ? Connu aussi, Christine ?
Kate Bush, Wuthering Heights.
Voilà, inspiré par le film tiré du roman Léo de Hurlevent d'Emily Brontë, qui m'a fait penser à une autre écrivaine, Emily Dickinson. Est-ce que ce serait à elle que vous faites allusion dans le morceau qui ouvre votre album Hit ?
Totalement, et c'est la première fois qu'on me le fait remarquer, je suis très contente. Oui, totalement. C'était une référence à Dickinson que je lis beaucoup. Et Kate Bush, quand on parle de danseuse des Delphes, je pense qu'on peut penser un peu à elle. C'est pareil, alors c'est bizarre, je la cite jamais comme référence directe, mais c'est quelqu'un dont le travail me poursuit pas mal. D'ailleurs, elle va reprendre des concerts à Londres à la rentrée, et je voulais avoir une place et j'ai pas eu de place, mais... Elle est impressionnante aussi parce que c'est une vraie artiste totale aussi. C'est quelqu'un qui touche un peu à tout et qui avait une manière très spontanée d'incarner sa musique, ce que je respecte beaucoup.
Alors, si vous lisez Dickinson, votre papa, lui, vous a plutôt fait lire la philosophie féministe d'Edith Butler lorsque vous étiez ado, mais la question du genre vous habitait depuis toute petite. Autre disque figurant certainement dans un des rayons de votre discothèque.
Ah ouais, c'est moi, Gainsbourg. On me trouve au hasard. Les nightclubs, les bars américains, c'est bonheur.
RFI, la bande passante avec Christine and the Queens, et qui me dit, parce que c'est pas un quiz pour vous, vous connaissez tous les morceaux que je passe.
On est très bien reçus, parce que moi je n'ai que des bonnes musiques dans les oreilles depuis tout à l'heure.
On est très bien à la maison ici.
Oui, on est très très bien, on est très confort.
Donc ça s'appelle ?
Alors c'est Gainsbourg, mais alors je crois que je sais pas quel album c'est.
Ecce Homo.
Ecce Homo.
Période Gainsbourg, donc 1980. Mm. Il fait partie de votre environnement musical, ça, on s'en doute. Serge Gainsbourg en entrevue avec Bernard Pivot sur la seconde chaîne française à l'époque lui parle de sa passion de la peinture. Gainsbourg raconte, ça s'appelle une initiation, un art majeur demande une initiation. Ce n'est pas un art mineur comme les sonneries que nous faisons nous, les compositeurs, interprètes de chansons. Est-ce que vous abondez dans son sens, Christine de Queens?
Franchement non. Après je pense que lui il a un parcours particulier qui l'a peut-être poussé à parler de la musique comme ça, je sais pas. Peut-être que c'était une provocation.
Les conneries aussi. Oui, pas les sonneries, pardon. Les sonneries, c'est...
Oh, ah, c'est des conneries, c'est encore pire en fait. non, enfin moi en tout cas je considère pas du tout la musique comme un art mineur et je trouve que c'est une aujourd'hui encore plus intéressant de faire de la. Moi je valorise beaucoup la musique comme art populaire et comme art contagieux. Je trouve que et pourtant je viens du théâtre et j'ai beaucoup aimé le théâtre, mais je trouve qu'il y a dans la musique quelque chose de d'encore plus contagieux et d'encore plus potentiellement universel. Alors peut-être que je mets trop d'espoir dans la musique, mais pour moi c'est loin d'être une connerie. Hein.
Christine de Queens qui fait de la musique contagieuse.
C'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
Passage de Christine sur l'album de Christine and the Queens. Vous qui chantez que vous commencez les livres par la fin, est-ce qu'on peut en faire de même avec votre disque?
Oui, mais alors du coup, ce serait une entrée beaucoup plus dramatique et pessimiste que la première chanson originale, parce que j'aime beaucoup moi les disques qui sont construits comme des un peu comme des films où il y a vraiment une progression. Mais ceci dit, c'est intéressant. Il faudrait que j'essaie moi-même de l'écouter à partir de la fin. Du coup, ce serait une route de l'obscurité vers la lumière. Ce serait pas mal.
Dans science-fiction, il est question d'humanoïdes en papier découpé. Dans Christine, ici, d'origami. Cet art du pliage, un des plus anciens populaires au 6e siècle en Chine. Si cet album devait prendre une forme d'origami, quelle forme aurait-il? Quelle apparence?
J'allais dire un bateau. Ce qui est une forme assez simple d'origami, je suppose, c'est pas la plus sophistiquée. Mais un bateau, comme ça on peut le faire voguer sur à peu près tout, je sais pas. Tout ce qui peut permettre au bateau de voguer, je suppose. Y compris la moquette, je sais pas. On peut... C'est un bateau tout terrain, voilà, un bateau tout terrain. C'est pas mal.
On va le garder, ce bateau alors. Notre origami, pour l'instant, va prendre l'apparence d'un journal radio, puisqu'il est temps de faire le tour du monde de l'actualité en 3 minutes pour la suite de la découverte du premier album de Christine and the Queens, ce sera juste après. Et le bilan des 30 ans des Francofolies de La Rochelle, avec notamment le Québécois Pierre Lapointe, Francofolie, où vous étiez hier, Christine. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite.
À tout de suite.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Musique.
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 Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de l'auteur-compositrice-interprète qui ne dit pas être très sexualisé, ne parle pas d'album mais de projet. Projet traversé de contradictions. Son pseudo n'est pas un groupe comme il pourrait le laisser entendre. En plein milieu de sa tournée, elle passe par la bande. Rebonsoir, Christine de Queens.
Bonsoir.
À peine 26 ans et pourtant, elle est déjà née plusieurs fois. En 1988 à Nantes, puis en 2010 à Londres. Vous avez une petite idée de la date de ce qui serait votre troisième naissance?
Impossible à prédire, et je pense que c'est ça qui est assez beau. Moi-même, je pensais pas que j'allais naître une seconde fois, mais du coup, j'ai décidé de pas prévoir la troisième naissance.
Et puis, juste avant de vous retrouver, Christine, 4 ans de plus que vous, 3 décennies pour les Francofolies de La Rochelle. Vous étiez à l'affiche lundi. Bastien Bray nous résume ce millésime particulier qui vient de refermer ses portes avec, entre autres, Pierre Lapointe. Bonsoir, Bastien.
Bonsoir, Alain.
La bande passante. Alain Pilot.
No.
Sheila, Cats and Trees, le 13 juillet au Francofolie de La Rochelle sur la grande scène du parking Saint-Jean-d'Acre. Cats and Trees qui a illustré avec cette chanson de publicité télé pour une célèbre marque de hamburger aux couleurs rouge et jaune, Bastien.
Et Cats and Trees que j'ai rencontré avant leur concert sous la pluie dimanche. Et Cats and Trees qui est Nina Goern et Johan Henkin, un duo piano-batterie qui se destinait à l'électro et qui est devenu, à la faveur d'un concert malheureux où ses machines ont brûlé, un duo piano-batterie, tout simplement pop.
Ah, ça nous impressionne beaucoup, c'est un grand honneur en fait, parce que c'est un festival dont on a toujours beaucoup entendu parler, évidemment en bien, et voilà, il y a toujours eu une programmation extraordinaire, ça fait 30 ans, c'est un festival mythique et en même temps ça se passe dans la ville, donc c'est être associé à tout ça, en plus avec la programmation de cette année qui est quand même hyper riche, avec plein d'artistes cool, enfin aujourd'hui il nous tarde vraiment de voir Fauve, Les Innocents, enfin... Voilà, c'est vraiment une étape importante. Tu sais, il y a des jours comme ça, comme quand on a joué au Solid Days, ou quand on a sorti l'album, ou quand on a joué avec des cordes pour la première fois, ou les victoires. Tu sais que c'est des pierres angulaires en fait de ton projet. C'est vraiment un moment important.
Ouais. Après, enfin, me concernant, les Francos, c'est un peu plus qu'un festival. Enfin, c'est aussi une ville et pour moi c'est une région, donc les Charentes-Maritimes et aussi les Charentes dont je suis originaire en fait. Et j'y ai passé de nombreuses années. Aujourd'hui je n'y habite plus, mais voilà, chaque fois que je reviens, c'est des goûts d'enfance, c'est une luminosité qui est particulière, je trouve, dans cette région-là et aussi en Charente. C'est des odeurs, c'est le vent de l'océan, enfin c'est les mouettes. Enfin c'est. Enfin, pour moi, je suis vraiment très très émue aujourd'hui d'être là. Ouais.
Cats and Trees qui nous amène vers un autre joli chat venu du Québec, celui-ci, Chloé Pelletier-Gagnon, alias Clopelgag, une jeune fille pleine d'humour qui a tout juste eu le temps d'enfiler sa tenue d'Halloween, habillée en squelette, pour monter sur la scène de l'horloge, celle des découvertes de ces Francofolies de La Rochelle.
Ben moi, je suis jamais venue au Franco Paris, tu sais, en France, là, nulle part. Puis, c'est super différent, en fait. Vous avez des groupes qui chantent en anglais. Nous, tu sais, on est les Francofolies, c'est vraiment un acte de défense de la langue française en même temps. Donc, tous les groupes chantent en français. Puis, c'est ce qui relie tout le monde. Il y a beaucoup de Français, justement, qui viennent de Belges, de Suisse. Puis c'est ça, mais en fait je viens d'arriver, donc j'ai pas encore apprivoisé beaucoup le festival. J'ai juste vu une rue et cette scène-ci. Donc c'est tout ce que j'ai de mon expérience en ce moment.
J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant en botte d'eau ou même en soulier. Je n'avais jamais vu.
Passante sur RFI, Clopelgag, samedi dernier au Franco de La Rochelle.
Et le plus court chemin du Québec à La Rochelle, c'est évidemment de passer vers la Hollande, Christine, comme ça vous serez au courant. Lui appelle ça d'ailleurs Noland, et c'est Dick Annegarn, le plus français et sans doute le plus poétique des chanteurs nolandais, était à la Coursive, le petit théâtre de La Rochelle, et il trace toujours son sillon à la marge de la chanson, en disant... non pas merde, mais comme son père Ubu, merdre aux conventions et en restant à l'écart des hommages de cette 30e édition des Francofolies.
La Rochelle, pour nous, est une vitrine. La Rochelle est un endroit où on vient montrer un peu notre savoir-faire. Il y a deux festivals, c'est Bourges et La Rochelle, où on vient un peu comme les Camelots. Les Camelots, ils montrent leurs bijoux, leurs produits ethniques, leurs gaufres. Nous, on vient vendre... Je suis marchand de vent, marchand de chant.
Vous êtes un militant poétique, si j'ai bien lu le journal.
Je suis un militant poétique, la lutte continue.
Et un militant poétique, il doit savoir dire merde aux Francofolies, c'est ça? Et
un peu. Il faut pas être la chose du public, ni des Francofolies. Je, à La Rochelle, j'ai un public qui est pas trop ringard. Voilà.
Vélo va, vélo vole. La voix va où? Vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion. station, au train à très grande vision. Bel avion, belle fusée, bel espace espationné, belle colcouse de spationaux, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole.
Dick Engarn qui viendra faire un tour à la maison comme vous, Christine, vendredi prochain.
Et à l'opposé de ça, le Québécois Pierre Lapointe est lui un chouchou des francopholies. Il ne dit pas merde, hein, mais des francopholies de La Rochelle, de Montréal, où il était encore cette année invité pour un concert donné au Musée Grévin. Un Pierre Lapointe qui nous parle de son concert piano-voix donné le 13 juillet et qu'on écoute en groupe pour le concert qu'il a donné sur la grande scène de l'Esplanade Saint-Jean.
Le fait de faire un spectacle le matin à 11h, moi, ça me fait toujours rire, surtout que j'ai des chansons assez, assez sombres. Puis quand c'est piano-voix, ça met le côté sombre en relief encore plus. C'est certain que de chanter à 11h du matin, là, je me dis, il y en a hier qui se sont couchés à 4h, qui étaient complètement sous quand ils sont couchés, ils ont encore leur haleine de cuite de la veille. Je trouvais ça drôle d'arriver avec mes chansons de « J'ai envie de mourir, je suis seul, la vie c'est de la merde ». Je trouvais ça drôle de chanter ça avec dans cette ambiance-là. Maintenant, c'est dans une super belle église, avec des beaux vitraux, qui laissait passer la lumière et qui me permettait de voir le visage des gens, ce qui est assez rare, parce que normalement, je vois du noir en face de moi. Donc non, je me sentais bien, ça m'amuse tout ça.
Quel regard porte l'enfant chéri des francopholies de Montréal sur les francopholies de La Rochelle?
Ben, j'ai un rapport amoureux avec les francopholies de La Rochelle, juste parce que j'adore les francopholies de Montréal, puis les francopholies de Montréal n'existeraient pas si on n'avait pas eu les francopholies de La Rochelle. Donc c'est un regard très respectueux, en fait. Je trouve ça bien, c'est un peu la même chose qu'à Montréal, c'est-à-dire c'est la chanson francophone qui prend d'assaut une ville, qui s'installe en plein centre, qui bousille toutes les habitudes des gens de la place. Et la différence, c'est qu'à Montréal, c'est au milieu des buildings, et ici, c'est sur le bord de la mer.
Ça vous fait pas bizarre de voir qu'il y a des gens qui chantent en anglais ici aux francopholies?
C'est sûr que c'est bizarre pour un francophone nord-américain qui est habitué, parce que chez nous ça existe pas. Hein.
Pour vous c'est un combat.
Hein. Nous c'est ouais, puis nous c'est surtout que les francopholies c'est pour la francophonie. mais vous avez pas le même rapport à la langue ici. C'est pas la même chose. Vous sentez pas aussi menacé que chez nous. Et quand même la majorité de la programmation est en français. Il y a des trucs en anglais oui, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant.
J'ai tout léché, les vitrines bravant le columbarium. Désormais, jamais plus, non rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de souffrir en paix, d'aller lécher les vitrines du columbarium. J'ai dégusté les glantines ornant le columbarium. Désormais, jamais plus, non rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de manger par la racine les glantines décorant le columbarium.
Pierre Lapointe aux Franco-Françaises, Bastien Bras.
Pierre Lapointe qui, à un moment ou à un autre, a dû passer derrière l'objectif de Franck Moreau. Lui, c'est celui qu'on ne voit pas, mais qui voit tout. L'un des photographes officiels de ces francopholies, 24 francopholies au compteur de sa quarantaine, il se souvient d'une figure des Franco, Jacques Higelin. Jacques Higelin, qu'on a vu jeudi soir, cette année, bien accompagné par Camille, Quinte, Miossec et Sandrine Bonner. Un Jacques Higelin qu'on imagine très très bien en corsaire.
C'est Jacques Higelin, l'année des pirates, je crois que c'est en 95. Et ils avaient fait un espèce de barnum entre la Seine, au-dessus le mur des remparts qui longe toute l'esplanade. Ils avaient tendu un câble géant avec Jean-Claude Vessière qui était le directeur technique à l'époque. Et ils avaient fait un dracard, un bateau dracard qui était vers la tour de la Chaîne, qui était sur des poulies. Et il avançait au fur et à mesure comme s'il était sur l'eau au-dessus des remparts avec Jacques Higelin dedans. Et il y avait des bidons qui explosaient à chaque passage au passage du dracard. Il y avait des mannequins qui volaient et tout, et des explosions. Et Jacques Higelin chantait déjà dans le dracard comme ça avec un micro. Alors, tout le monde tournait la tête vers là et tout, c'était impressionnant. Et il est descendu la scène par les structures du mur et de la scène comme ça. Et il est arrivé sur scène comme ça, un truc de fou quoi. Et juste avant, il a fait une parade dans ville. Et il est arrivé sur l'esplanade avec des comédiens et tout ça. Et Et moi, j'étais pas prêt du tout. J'ai pris mon boîtier. Alors, bien sûr, on est bossé en argentique et moi, en noir et blanc, particulièrement. Et là, je me suis tourné. J'ai pas eu le temps de régler. Et Jacques Higelin est arrivé face à moi, tout heureux. Mais alors, une image heureuse de lui, de la fête, tout ce qu'aimait Jean-Louis. Et en fait, ça représente tous les Franco pour moi. Rien que dans ce regard, ce sourire et cette énergie qui passe là. Pour moi, c'est cette photo-là. Jacques Higelin en 95 pour les Pirates. Voilà, ça, c'était bien.
Pirate, mais jamais filou, le Jaco. Mmh. Sachant que nous allions vous accueillir ici, Christine Pierre-Lapointe a souhaité vous poser cette question via notre franco-fou de Bastia.
Je me demande, on a parlé un petit peu de sa façon de danser, mais je me demande où elle a dansé la première fois. Qu'est-ce qui fait qu'elle danse comme ça? Parce qu'elle a une façon de bouger qui est particulière et magnifique. Donc, quelle est la question, clairement, ça va être, quel est son rapport à la danse? Qu'est-ce que la danse veut dire pour elle?
Alors, Christine Anne de Queens, vous qui avez repris Joséphine de Bachung pour la chronique radio de Pierre Lapointe.
Le rapport à la danse, je crois que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dansé. Enfin, il y a même des vidéos de famille qui le prouvent. Même quand je pense que j'ai commencé à marcher, et puis j'ai un petit peu tout de suite commencé à danser. Et je crois même que j'ai commencé à danser quand j'étais à quatre pattes. Enfin bref. Et je crois que ce que j'aime profondément, c'est que ça permet au corps d'exister de manière irréductible et que ça permet de transmettre énormément de choses sans avoir à poser de mots dessus. J'adore les mots, mais la danse permet vraiment d'avoir un langage que tout le monde peut comprendre et qui en même temps est indéfinissable. Enfin, j'aime bien la liberté que ça donne au corps, voilà. Donc j'aime beaucoup quand j'étais plus jeune et que j'allais à des booms, ça m'arrivait. Eh bien, j'étais près du buffet à manger des chips et je regardais les gens danser. J'adore regarder la manière de danser de chaque personne. Chacun a un langage très personnel, je pense.
Ça définit bien la personnalité de chacun.
Oui, je trouve.
Merci Bastien. Pour en savoir plus sur cet anniversaire des Franco qui a réuni 92 000 spectateurs, c'est également sur rfimusique.com, papier signé par vos soins. À très bientôt.
À très bientôt, Alain et Christine. J'espère que vous avez retenu la leçon de Jacques Higelin. La prochaine fois à Saint-Jean-d'Acre.
Mais on parlait d'un bateau.
Vous arrivez en bateau, c'est ça?
Je vais prendre des leçons, je vais l'appeler, je vais savoir comment. Oui, c'est une très bonne idée. Il va falloir trouver autre chose qu'un bateau, mais on va trouver une entrée de scène, oui, c'est sûr.
Pirate. Dieu, mais que se passe-t-il, Christine ?
C'est la question que je me pose moi-même.
C'est la question que vous posez vous-même. C'est Freaks, film culte américain réalisé par Todd Browning, sorti en 1932. Un clin d'œil au tatouage que vous auriez sur vos avant-bras, We Accept You à droite et One of Us à gauche. Il n'y a pas de gobble, gobble, gobble ?
Non. Mais c'est un film très important pour moi, décisif, que j'ai vu très jeune, mais qui m'a énormément marqué pour le coup.
Et pourtant, vous êtes très vieille aujourd'hui, 26 ans. Ouais. Beauté, acrobatie, complot, empoisonnement, vengeance sont les thèmes principaux de ce long métrage. Mmh. Est-ce que ainsi va la vie, Christine ?
Ainsi va la vie, et je trouve aussi que dans ce film, il y a un très beau message, c'est que les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Et ça, je pense que ça marche pour la vie aussi.
Plutôt timide, un mode de vie assez protestant, elle chante, danse, mime, compose et écrit, mais n'est pas très forte pour garder des amis. Sur scène, elle aime s'oublier, s'évader, être une énergie. Pour elle, la musique restera toujours quelque chose de physique. On la retrouve sur une des plus grandes scènes du monde, celle de RFI, dans sa superbe tenue crème et bleu marine. Paradis perdu, Christine and the Queens, en direct au salon.
sont ridés. Et ce clavier, comme c'est joli, j'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock qui bétonnait comme les Anglais.
Christine and the Queens en session RFI bande passante, en concert en France jeudi au Festival des Vieilles Charrues à Carré, le 1er août aux Nuits Secrètes à Aulnoy-Aymeries, le 30 septembre et le 1er octobre à la Cigale à Paris, où elle sera accompagnée de ses danseurs et de plusieurs musiciens. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, disent ces paradis perdus de Jean-Michel Jarre pour Christophe. On imagine que c'est cette phrase qui a pesé dans la balance pour reprendre ce tube.
Exactement. Vous avez vu juste. C'est vrai que c'est un texte qui fait un peu écho au projet et en même temps, il y a un texte qui est très différent de moi aussi parce que je ne suis pas un bandit un peu vieilli, un peu maudit, enfin du moins pas visiblement, mais ça m'intéressait de chanter ça en tant que jeune fille.
Vous l'avez rencontré, mais vous étiez très gênée devant lui, je crois. Vous aviez les mêmes moites devant Christophe.
Oui. Ça y est, ma timidité. J'ai fait mon coming out de timide. Après, je suis très admirative de son travail, mais je suis pas très douée pour rencontrer effectivement les gens dans des situations quotidiennes. Et là, c'était un dîner, donc j'étais vraiment paralysée. Je pense que et d'ailleurs après, on s'est écrit un peu des textos. Et je pense que la meilleure manière qu'on aura de se rencontrer, s'il veut bien encore, c'est qu'on écrive peut-être ensemble ou qu'on fasse de la musique.
À suivre. Lui a beaucoup aimé en tous les cas votre reprise. Comment est venue l'idée d'incorporer à votre recette des paradis perdus, Christine and the Queens, Heartless de Kanye West? C'était pour gélifier avec le texte du rappeur américain le côté enfumé des bas-fonds londoniens? C'était pour mettre un côté glacial?
J'ai trouvé que les deux se prolongeaient très bien. En fait, pour être très franche, c'est venu en improvisation parce que moi, je prépare ma musique et puis ensuite, j'improvise énormément le chant. Je fais tourner la musique et puis je chante comme ça me vient. Et on a entendu là le refrain des paradis perdus qui est déjà en soi un peu étrange. Je trouve qu'il y a déjà une rupture dans la chanson un peu particulière. Enfin, Christophe change de voix, ça devient beaucoup plus grave et beaucoup plus surjoué. Et je sais pas, je me suis sentie plus à l'aise en prolongeant avec du Kanye West. Et ce qui m'intéressait, c'est que la chanson de Kanye West parle d'une colère et d'une rupture, donc il y a une interprétation. Et puis celle de Christophe.
Encore.
Ouais, on n'en sort pas. En fait, voilà, je suis traumatisée par toutes les ruptures que j'ai eues. Mais du coup, les deux dialogues entre elles, en fait, les deux chansons pour moi s'enrichissent. Et puis, ça me faisait plaisir de les marier de force dans une chanson, parce que c'est deux références vraiment importantes pour moi, Kanye West et Christophe.
Retour en France, vous faites un passage cuisant aux Victoires de la musique qui vous permet d'accéder au lever de rideau de ce jeune homme.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. étions formidables.
Formidable Stromae, ou quand un phénomène en annonce un autre, qu'est-ce que cela fait d'être, dès son premier album, considéré de la sorte ?
C'est à la fois très enthousiasmant, parce que évidemment on est très heureux de pouvoir sortir un album et surtout d'avoir l'impression qu'il est reçu de la manière dont on voudrait qu'il soit reçu. Enfin, moi j'ai eu l'impression d'avoir commencé un dialogue et qu'on répondait, donc c'est très gratifiant. En même temps, moi j'ai un côté très angoissé, donc j'ai toujours peur que ça ne dure pas. J'espère juste que c'est pas un épiphénomène et que les gens n'en auront pas marre de moi pour le deuxième album, parce que moi j'ai des idées pour le deuxième album.
Qui sera un peu libidineux, je crois.
Oui, je l'annonce à tout le monde, mais ça se trouve, ce sera encore mélancolique et assez chaste.
On ne récolte pas toujours ce qu'on sème. Tu connais l'ambition suprême de ceux qui te vouent de la haine, dit la chanson de Daniel Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé, que vous avez reprise à La Rochelle. Vous la faites vôtre parfois, cette phrase ?
C'est pas forcément cette phrase-là de cette chanson que je ferai le plus résonner avec Christine, mais. Aimer est plus fort que d'être aimé, par contre, oui. Je pense que c'est une maxime qui serait pour moi, ça.
Si je vous dis maintenant adolescence, blessure reçue, col de chemise fermé ou les grands appétits, vous me répondez ?
Chaleur humaine.
Passage de Chaleur humaine, le titre qui donne son nom au premier opus de Christine and the Queens. Est-ce que vous avez le sentiment que votre couronnement est déjà arrivé ?
Oh là non. Enfin, moi c'est curieux, mais j'ai l'impression que c'est que le début. J'ai l'impression que c'est un premier album, c'est un peu un premier rendez-vous amoureux, donc on se présente. J'ai présenté Christine, j'ai présenté un peu ses problématiques, mais maintenant j'ai l'impression que le vrai jeu commence pour moi. Donc j'espère. Et puis je sais pas si le couronnement c'est forcément une bonne chose en fait.
Ah bon ?
Ça c'est le côté angoissé de moi qui parle, le côté vert à moitié vide. J'ai pas tendance à me reposer sur des lauriers, quels qu'ils soient, donc je sais pas si le couronnement m'apporterait pas une angoisse supplémentaire.
Attendre son baiser, ça serait peut-être votre couronnement, c'est aussi ça la chaleur humaine selon vous. Je vous embrasse.
Merci.
La bande passante.
Christine and the Queens, fin de la rediffusion de sa bande, gouvernant de la maison Pierre Vallée, ingé son du salon Benoît le Tyran, Fabien Munieret. Lundi, retour de la bande en direct avec Myra and Mr. Mao. Tweetez-nous via hashtag bande passante. Le code du portail, c'est RFI.fr. RFIMusique.com pour les fans de musique. Les réseaux sociaux pour la suite des palabres entre nous. Bon congé de fin de semaine. Tout de suite, le journal. Salut à tous.